Alors, notre Église, comme expliquait Jean-Philippe, fait un survol de plusieurs doctrines importantes, fondamentales de la Bible. Nous avons vu la Trinité, nous avons vu la régénération, et ce matin, les alliances, la nouvelle alliance. Et je reconnais que ce sont des termes un peu techniques, que nous n'utilisons pas tous les jours. Mais dans tout domaine d'activité ou de connaissance, certains mots sont utiles, certains concepts sont utiles. Si vous faites du ski, ça aide de savoir ce qu'est un télésiège. Ce n'est pas un siège avec un télé, mais c'est autre chose. Et j'ai appris un mot cette semaine, les dragons. Ce n'est pas une dragon-fille, c'est les petites lanières sur les bâtons qu'il faut enlever lorsqu'on prend le télésiège. Ou encore, si vous faites de l'électricité, les mots comme conducteur, potentiel, haute tension reviennent souvent, mais ils ont un sens particulier dans le contexte de l'électricité. Potentiel, conducteur, tension, ce n'est pas pareil dans d'autres domaines. De la même manière, si vous voulez comprendre la Bible, et Dieu, et le salut, et son plan pour nous, certaines idées, certains mots sont importants. Et dans cette série, la bonne nouvelle, c'est que nous faisons le constat que beaucoup des termes, beaucoup d'idées théologiques, des idées importantes en matière de théologie, nous sont expliquées par des images accessibles, des images familiales. Et les images familiales nous sont familières parce que nous avons tous une famille. La Trinité, certes, c'est complexe, mais la Bible parle du Père et du Fils, et là, c'est un peu plus accessible. On parle de la régénération, c'est mystérieux, mais une naissance, une nouvelle naissance pour expliquer cette œuvre de Dieu que Dieu fait, ben ça c'est une belle image. Et ce matin, si vous voulez comprendre Dieu et son plan, il vous faut le concept des alliances. Notre relation avec Dieu et toutes les bénédictions de notre salut viennent d'un Dieu qui fait alliance, qui garde alliance. Et la Bible, son plan, en parle beaucoup, des alliances et pour aboutir à la nouvelle alliance. Alors, c'est quoi une alliance? Alors, ce n'est pas l'anneau qu'on met au doigt le jour du mariage, même si le concept biblique a donné le mot à ce que nous mettons sur l'annulaire le jour du mariage. Une alliance, au sens plus large, c'est un engagement entre deux parties, un engagement contractuel, légal, signé entre deux personnes. Ça peut être, par exemple, un traité de paix entre deux nations qui sont en guerre, qui font la paix. Et des fois, Dieu fait des alliances avec des hommes basées sur cette image-là. Une autre alliance qui était dans nos vies, qui revient souvent dans la Bible, c'est un testament. D'ailleurs, c'est le même mot en grec, alliance, testament. Un testament entre le testataire et ses héritiers, c'est une alliance. On passe devant le notaire, c'est très légal. Mais l'image qui capte peut-être le mieux ce que Dieu veut nous montrer par l'alliance, pourquoi Dieu fait des alliances avec nous, l'image qui capte mieux tout ça, c'est certainement le mariage. Et c'est cette image que nous allons creuser ce matin, qui va nous aider à comprendre la relation de Dieu avec son peuple et Christ avec son épouse, l'Église. Cette image va nous aider à comprendre la nouvelle alliance. Donc j'ai plusieurs lectures pour cela, Malachie 2 et Jean 3. Donc, justement, on va lire un des passages à la toute fin de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et aussi un passage au début du Nouveau Testament. Donc si vous prenez le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et je vous lis les versets 2, 13 à 3, 2. Malachie le prophète, chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qui prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de justice? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et maintenant, Jean chapitre 3, nous avons déjà vu dans cette série Jean 1, puis Jean 3, et maintenant la suite, juste après la conversation avec Nicodème, Jean chapitre 3, verset 25. Jean 3, 25, « Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » J'ai relié ces deux textes. C'est un peu exceptionnel d'avoir deux textes comme ça, mais ça parle du rôle important. Les deux parlent du rôle important de Jean-Baptiste. Malachie annonçait ce messager qui allait précéder le messager de l'Alliance. Et aussi, les deux textes utilisent le mariage, l'époux, l'épouse, la fidélité entre eux, la joie entre eux, pour nous aider à comprendre le plan de Dieu. Et à ce moment, en Jean 3, à ce moment dans l'histoire du salut, de grands bouleversements sont en train de se produire avec la venue du Christ, avec l'arrivée de Jésus. Et c'est la fin de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et c'est le début de la Nouvelle. Et certaines personnes ont du mal à se positionner et à comprendre tout ça. Alors, pour les aider à comprendre, Jean prend l'image du mariage, des noces, avec ces trois personnages. L'ami de l'époux, le témoin, ensuite l'époux et l'épouse. Alors, ce sera notre plan ce matin. Le témoin, l'époux et l'épouse. Et ces images vont nous aider, nous aussi, à nous positionner dans le plan de Dieu. Un plan qui est basé sur les alliances et ses promesses joyeuse du mariage. Parlons d'abord du témoin, de l'ami de l'époux. Pensez un peu au rôle du témoin lors d'un mariage. Souvent, le témoin, c'est quelqu'un de très proche, son meilleur ami, d'où l'expression témoin, c'est l'ami de l'époux. Et c'est souvent comme ça que nous fonctionnons aussi. On prend son meilleur ami comme témoin. Chez nous, son rôle, c'est de signer et d'attester la signature devant le maire. Donc, il a un rôle très, un peu légal, important. Chez nous, il aussi donne un discours pendant la soirée, ce qui est très bien. Et à l'époque, et c'est encore le cas chez nous, je pense, le témoin aussi aide beaucoup à la préparation du mariage. Et il veille au bon déroulement. C'est peut-être lui qui est en contact avec le traiteur, des choses comme ça. Le témoin, et c'est encore parfois le cas, quand c'est un meilleur ami, il va aider dans les animations de la soirée pour que tout le monde passe une bonne soirée dans la joie et dans la fête. En même temps, le témoin, il reconnaît qu'on n'est pas venu pour lui. Il n'est pas fâché que personne ne lui donne lui des cadeaux. Il n'est pas fâché que personne ne lui donne lui une alliance. Ce n'est pas lui qui est dans toutes les photos. Il n'insiste pas à être présent pendant le voyage des noces, ni de vivre en permanence chez le couple, et encore moins d'essayer de séduire ou de s'enfuir avec l'épouse. Ça, ce n'est pas un bon témoin. Et Jean-Baptiste prend toute cette richesse de l'image de l'ami de l'époux du témoin pour décrire son ministère. Il reconnaît qu'il est comme cet ami. Verset 29. Moi, je suis l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend l'époux, qui éprouve une grande joie de voir l'époux et l'épouse ensemble. Alors, Jean-Baptiste, il faut comprendre, il dit ça en tant que dernier prophète de l'Ancien Testament, en tant que ce messager annoncé par Malachie. Jean-Baptiste, il incarne l'esprit de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il ressemble fortement à Élie, ce grand prophète de l'Ancien Testament. Donc Jean-Baptiste représente, en tant que dernier prophète de l'Ancien Testament, il représente toute cette ère qui est en train de tirer à sa fin. Il reconnaît qu'il avait tout l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament dont Jean-Baptiste représente, avaient pour but de préparer la venue du Christ, préparer la venue, le témoin prépare la fête, la célébration, mais de céder la place une fois que l'époux arrive. Parce que vous avez vu en verset 25, tout commence avec une dispute concernant la purification. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Mais après, il compare dans la dispute, visiblement, le sujet, c'est un peu les pratiques des disciples de Jean et les disciples de Jésus. En effet, la loi de Moïse, appelée souvent une alliance, qui est une alliance, c'est une autre grande alliance de la Bible, la loi de Moïse, on appelle ça l'alliance au Mont Sinaï ou bien l'ancienne alliance. Eh bien, cette alliance avait beaucoup de rites de purification. C'est-à-dire les clauses et les conditions de cette alliance, il y avait beaucoup de cérémoniels, beaucoup de rites de purification. Et Jean-Baptiste et ses disciples, visiblement, ils les suivaient encore. Mais voilà que Jésus et ses disciples semblent être moins à cheval sur ces rites de purification, ces lavages. Et même en ce moment, certains disciples de Jean, ils changent de camp pour aller avec Jésus. C'était le cas dans le premier chapitre. Et les disciples de Jean restent un peu troublés. C'est comme, ça sera embêté, c'est plein de gens de notre église. Une quitte notre église pour aller dans une autre église, on se demandera pourquoi. Ou si plein de gens d'un club sportif, d'une équipe, changent pour aller dans une autre équipe, on voudrait savoir. Mais Jean, il célèbre la chose. Il dit non, c'est pas comme juste deux clans ou deux tribus ou deux écoles rabbiniques. Là, c'est autre chose. C'est comme l'ami de l'époux et l'époux et l'épouse. Et lui dit, moi, je ne suis que l'ami de l'époux. J'ai fait mon travail de préparation, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Mais maintenant, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors oui, ça, c'est une belle devise personnelle que nous pouvons tous adopter. Il faut que je diminue et que Jésus croisse dans ma vie. Mais dans cette phrase, dans la bouche de Jean-Baptiste, c'est aussi tout le programme de la Bible, c'est tout le programme de l'Ancien Testament qui va céder place au Nouveau Testament. Il faut que l'ancien système diminue et que Jésus croisse et prenne toute la place. Et c'est pour ça que Jean est en train de dire à Jean-Baptiste, il ne faut pas être surpris que ces pratiques de purification, de sacrifice, de temple, de circoncision, tous ces signes et ces symboles de l'Ancienne Alliance sont sur le point de disparaître. Pour Jean, il faut même s'en réjouir. Ça, c'est comme l'ami de l'époux se réjouit lorsque l'époux et l'épouse sont ensemble. L'époux est là, donc il faut être dans la joie que ces choses sont en train de changer. Il ne faut pas être triste. Et si vous lisez le reste de l'évangile de Jean, effectivement, Jean est en train de montrer que beaucoup de choses de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, comme le Temple, sont en train de... Ça va changer, mais on n'aura plus besoin de Temple. On va adorer Dieu en esprit et en vérité. La voile va se déchirer et il n'y aura plus besoin de sacrifice. La manière d'être purifié, maintenant, ça change. C'est vraiment... Ce n'est pas par un sacrifice sanglant, ce n'est pas par les lavages, ce serait par Christ dans nos cœurs et nos consciences. Alors, c'est vrai que les premiers chrétiens étaient majoritairement juifs. Et donc, cette transition entre l'ancien système de Moïse et la nouvelle réalité en Christ, entre l'ami de l'époux et l'épouse, c'était un défi à vivre. Parce qu'il y avait des traditions et des habitudes et des manières de penser qui remontaient à des siècles dans le système juif. Et Jean a dit, tout ça, dans un sens, tout ça va diminuer pour que Christ croisse à la place. Et donc, c'est un sujet majeur quand même du livre des Actes et des Épîtres, ce bascule entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Et le judaïsme commençait à voir le christianisme en concurrence. Comme quoi, pourquoi les gens nous quittent pour aller vers eux et donc, ils faisaient barrage. Mais selon Jean, non, il faut s'en réjouir. Il n'y a pas de concurrence entre le témoin et l'époux. C'est comme ça, et c'est la joie, c'est une bonne chose. Et il faut reconnaître que cette question d'alliance revient des fois théologiquement et dans nos pratiques d'Église. C'est des fois un défi à comprendre tout le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui change entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui reste pareil? Parce que Dieu ne change pas. Et il peut y avoir un peu comme ici, des discussions, des disputes, des désaccords. Ici, c'était concernant la purification. Nous, même dans la famille protestante, on va avoir quelques désaccords sur le baptême, par exemple, la manière de pratiquer le baptême. Certaines vont le relier à des pratiques de l'Ancien Testament, la circoncision, les enfants qui naissent dans une famille sont circoncis, donc de la même manière, les enfants qui naissent dans une famille chrétienne peuvent être baptisés. Nous, en tant qu'Église baptiste, on va dire, non, puisque ça fait partie un peu de l'ancien système, maintenant, en Christ, c'est avec la nouvelle naissance, c'est différent, on ne va pas baptiser les bébés, on va baptiser les nouveaux croyants, ceux qui sont nés de nouveau. Donc, voilà une différence. Des fois qu'il faut naviguer entre des vrais frères et sœurs en Christ, mais c'est la manière qu'on articule ce changement entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, sachant que oui, il y a des choses qui viennent avant la loi de Moïse et qui peuvent toujours régir nos vies. Le sabbat est un sujet parfois où nous croyons en nous, la réalité en Christ. Il ne faut pas respecter chaque samedi le sabbat et le dimanche n'est pas un autre sabbat. Mais ce sont des choses qui peuvent faire discuter. Mais nous croyons que oui, il y a des nouveautés, il y a une nouvelle réalité une fois que l'époux est là. D'autres choses, nous allons être d'accord que ça n'a pas changé. Certains vont dire, voilà, dans l'Ancien Testament... Oui, Dieu était contre l'homosexualité ou les mariages gays, mais dans la Nouvelle Alliance, voilà, Jésus, c'est l'amour, Dieu est amour, donc ça va changer. Et nous allons dire non, ça, il y a une continuité et le plan de Dieu pour le mariage et la sexualité, il remonte jusqu'à la création, jusqu'à son caractère. Et c'est pour ça, et c'est un peu mon message ce matin, que le mariage est une image de Dieu et son peuple, et donc on veut préserver les définitions qu'on retrouve dans toute la Bible. Mais je reconnais que c'est parfois un défi de savoir ce qui appartient, ce qui s'efface avec l'arrivée de Christ et ce qui maintient. Il faut un discernement, il faut, comme ces mots, c'est à force d'étudier, de maîtriser, qu'on arrive à discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est pour le témoin. Maintenant, parlons de l'époux. Évidemment, ici, l'époux représente le Christ, Jésus. Et il faut savoir que Jean, il aime bien cette image de l'époux, notamment dans sa première section de son évangile. Juste avant ce texte, vous vous souvenez, Jésus avait fourni une abondance de vin pour un mariage. Donc le premier miracle de Jésus, là, il a montré sa gloire. C'était lors d'un mariage où il a ramené la fête, il a fourni, il a changé l'eau en vin. Et ce vin qui manquait, c'est l'époux qui aurait dû... gérer ça, mais finalement, Jésus le gère mieux que lui. Donc, il y a déjà ces images du mariage d'époux dans ce premier miracle. Et puis, juste après, Jean chapitre 4, Jésus va parler à une femme samaritaine. Elle divorçait 5 fois à côté d'un puits. Là, d'ailleurs, où de nombreux personnages importants dans l'Ancien Testament avaient rencontré leur épouse à côté d'un puits, avec une femme en détresse. Et cette fois-ci, Jésus, il accueille cette femme samaritaine. Il aime, il montre qu'il peut apporter ce qu'aucun de ses 5 époux n'avait pu faire. Une eau vivante, enfin sa soif étanchée par l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, ces images sont présentes. Et puis, mais ici, c'est le plus clair de tout. Jésus est présenté comme l'époux. Et Jean, nous savons qu'il s'appuie sur des images de l'Ancien Testament, des images messianiques. Il y a des psaumes qui présentent le fils de David, le Messie, comme un époux royal qui a son épouse. Les prophètes Ésaïe, Osée aussi, ont annoncé le jour où Dieu sera comme un époux pour son peuple, avec un amour éternel. Et Jean-Baptiste dit, oh, tout ça c'est Jésus. Moi, je trouve que c'est une des plus fortes images de toute la Bible. Et que le Dieu chrétien qui se présente comme époux de son peuple, cette image de l'époux et du mariage nous aide à vraiment comprendre le genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. Et on revient à la notion de l'alliance. C'est quoi? Qu'est-ce qui lie un époux et une épouse? C'est pas juste c'est l'amour, mais c'est plus que l'amour. Un mariage, une alliance, c'est une relation d'amour, mais c'est aussi une relation légale, contractuelle, permanente, avec des signatures, avec des témoins, avec des articles de loi. Une cérémonie de mariage, je ne connais pas d'autres contextes comme ça. Et les cérémonies, c'est très joyeux et c'est très sérieux. Il y a le maire, normalement, il faut aller en ville, à la mairie ou à la préfecture, c'est pas pour des raisons. On aimerait éviter plutôt ça, des queues et les papiers, et la fonction publique. Mais un mariage, ça change. On veut aller à la mairie et on est dans la joie, mais il y a un côté très sérieux, très légal. Comme nous rappelons souvent lors des mariages et dans nos préparations de mariage, c'est facile de dire à quelqu'un, tout le monde peut dire à quelqu'un, je t'aime. Je t'aime. Et on peut dire aussi, je t'aimerai toujours. C'est assez facile à dire. Mais vous savez bien, c'est tout aussi facile à dire, je t'aime pas. Je t'aime plus. Je te quitte. Juste des paroles comme ça, c'est assez facile. Par contre, s'il y a passage devant le maire, s'il y a des témoins et des signatures et des articles de loi, ben c'est plus difficile à dire « je te quitte ». Là, il faut des avocats, il faut des frais, il faut vendre la maison, il faut traumatiser les enfants, il faut... Et là, on hésite un peu. Heureusement. Et c'est fait pour ça, c'est ça une alliance. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Et on comprend pourquoi Dieu n'aime pas la divorce, la répudiation. Parfois, c'est nécessaire et c'est justifié, mais c'est quelque chose de difficile à vivre. Donc tout ça, Jésus comme époux, nous aide à comprendre non seulement son amour, mais la permanence de son amour, la fidélité de son amour, le désir d'être avec nous pour toujours. Non seulement Dieu nous dit « je t'aime », mais il nous dit « je promets de t'aimer éternellement ». Et pour que tu saches, on fait une alliance. On fait une alliance avec un serment, avec des vœux, avec un sceau, avec des symboles, comme dans toutes les alliances. Et nous avons tout ça dans la nouvelle alliance. Nous avons le serment, la promesse de Dieu. Nous avons le sceau qui est Jésus-Christ, qui est sa mort à la croix, sa résurrection. Le don du Saint-Esprit qui nous marque. Nous avons des symboles qui sont le baptême et la Sainte Cène que nous pratiquons régulièrement et qui nous rappelle, comme l'alliance qu'on met au droit, qui nous rappelle, ah, je suis marié, ça s'est fait le 27 septembre 2003, le baptême et la Sainte Cène nous rappellent, il y a ce moment où Christ a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés, et ce moment où je me suis engagé avec lui, où j'ai dit oui à lui en retour, tout ça rend notre relation avec Dieu bien plus forte, parce qu'il y a une alliance derrière. Donc, célébrons ce matin Jésus, l'époux. On comprend un peu le rôle de Jean-Baptiste et tout l'ancien testament qui prépare la venue. L'époux arrive et c'est la joie. C'est un amour qui dépasse tout. C'est un amour fidèle, un amour de promesse. Et maintenant, réfléchissons au rôle de l'épouse. Selon l'image de Jean-Baptiste, l'épouse, ce sont les gens qui vont à Jésus. Parce que c'est un peu la plainte, mais tous vont à lui. Et Jean-Baptiste est plutôt content que tous vont à lui. Donc pour Jean-Baptiste, les gens qui vont à Jésus, qui croient en lui, et qui le suivent comme ses disciples, c'est eux, ce sont eux l'épouse. L'épouse représente donc les croyants, le peuple de Dieu. Alors je rappelle, c'était une discussion intéressante que nous avons en une cellule il n'y a pas si longtemps, mais effectivement l'épouse est une image collective, hein. C'est pas tant individuel. Jésus n'a pas épousé la femme samaritaine, et encore moins Jésus n'a pas épousé Nicodème. C'est là, C'est une image collective, le peuple de Dieu, homme et femme, constitue l'épouse de Christ. Mais l'image féminine est très forte pour décrire tout le peuple de Dieu. Et ensemble, nous pouvons apprécier cette image, homme et femme. Là encore, l'image n'est pas nouvelle, le peuple de Dieu comme son épouse. Dans l'Ancien Testament, Israël est parfois présenté comme l'épouse, aussi comme fils, hein, donc il y a plusieurs images, mais Israël est présenté comme l'épouse. Dieu veut être son époux, fidèle. Mais comme Malachi déplore, et c'est un grand thème de son livre, qui est un peu dénonciateur, ce peuple est souvent infidèle à l'alliance. D'ailleurs, ce peuple est infidèle dans ses propres alliances, et le peuple était souvent prompt à divorcer, à rompre leur mariage, et donc Malachi dénonce cette facilité au divorce qui ronger le peuple. Mais au-delà de ça, Malachi aussi, tout au long de son livre, le mot « alliance » revient beaucoup, beaucoup, beaucoup en Malachi. Malachi dénonce le peuple infidèle à l'alliance, à leur alliance avec Dieu. Un peuple qui prompte à vouloir le tromper. Et Malachi et Osée, d'autres, vont montrer que le péché, tout péché est comme un adultère spirituel et que Dieu dénonce, dont il est choqué. Vous savez, dans la plupart des alliances, c'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour bien d'autres alliances, il y a des conditions. On stipule les pénalités en cas de non-respect, d'infidélité. Dans d'autres alliances, ça peut être des sanctions financières, ça peut être des mesures punitives dans une alliance entre deux nations, deux pays. Et c'est comme ça que fonctionnait d'ailleurs l'ancienne alliance. Il y avait des conditions pour être béni, mais aussi il y a des pénalités pour être maudit si on respectait pas l'alliance. Et c'est comme ça que fonctionnait vraiment l'alliance avec Moïse. Si tu obéis, si tu es fidèle, alors tu vis et tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, si tu es infidèle, si tu me trompes des dieux, tu seras banni, tu meurs, tu maudit. Le problème, c'est que dans l'ancienne alliance, le peuple s'est comporté maintes et maintes fois comme une épouse infidèle. Avec toutes ces infidélités, Dieu a dû comme la renvoyer, la bannir. Donc cette image d'épouse n'est pas très rassurante si nous sommes comme tous les autres êtres humains, hein, comme Juppé nous a bien rappelé ce matin. On fait le constat de notre propre cœur. Cette image n'est pas très rassurante si c'est pour agir de la même façon que les gens ont toujours fait dans l'Ancien Testament, depuis Adam, Noé, Israël. Mais voici la bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle de la nouvelle alliance. Et ça va être la différence avec cette alliance des autres. Cette fois-ci, Dieu va envoyer... Malachi l'a annoncé, il va envoyer le messager de l'alliance que vous désirez. Il y a quand même un désir en nous que nous apporte cette alliance, mais avec de nouveaux termes. Et en effet, dans la nouvelle alliance, si vous lisez, comme Jérémie nous a été lu ce matin, si vous lisez d'autres textes, la nouvelle alliance, pour la première fois, garantit les conditions. Dieu garantit lui-même les conditions de l'alliance et il porte lui-même les pénalités en cas de non-respect. Donc c'est comme Dieu dit à son peuple, si je suis infidèle, c'est moi qui paie, mais c'est impossible, Dieu ne peut pas être infidèle. Si tu es infidèle, ce n'est pas toi qui seras béni, ce n'est pas toi qui meurs, c'est moi qui le serai. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Il a été banni, il est mort. À la place, subir les conséquences de l'alliance pour nous offrir une nouvelle. Et en plus, la belle promesse annoncée par les prophètes, Malachi, et que Christ accomplit, c'est qu'il dit, maintenant, avec la nouvelle alliance, je te purifie et je te rends fidèle. Ça, c'est la nouveauté de la nouvelle alliance. Et maintenant, par mon esprit, par ma présence, par mon amour, je te purifie. t'as pas besoin de toutes ces purifications qui t'es sujet de dispute, c'est moi qui purifie ton cœur à la croix, et je t'en rends fidèle par mon esprit. Donc tu me seras fidèle, je vais t'aimer et tu vas m'aimer parce que je te donne un cœur nouveau et je te donne un envie d'obéir mes lois et nous allons marcher ensemble dans l'amour. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, comme Malachie dit, je termine avec ça, comme Malachie dit au verset 2, chapitre 2, verset 16, « Ne soyez pas infidèles. » C'est vrai, c'est beau, je vous le dis aussi, « Ne soyez pas infidèles. » C'est un conseil pour les couples, c'est pour tous. « Ne soyez pas infidèles. » Et surtout, la bonne nouvelle ce matin, le sujet de joie, c'est que la vraie épouse de Christ ne sera pas infidèle. Parce que ce messager de l'Alliance est venu pour nous purifier grâce à la nouvelle Alliance, grâce à Christ, l'époux, et nous, son épouse. Nous avons la promesse que l'épouse sera belle, sera sainte, sera pure, sera irréprochable. Dieu la voit comme telle grâce à Jésus. Quelle assurance! Et c'est Jean aussi, tellement il aime cette image, qui termine toute la Bible et termine l'Apocalypse avec le peuple. L'épouse réunie avec Jésus et le paradis comme des noces éternelles. Donc ce matin, si vous avez compris l'alliance, c'est ce concept, j'espère que vous puissiez repartir avec ce concept qui rend notre foi encore plus solide, encore plus béton, de savoir que non seulement Dieu nous aime, mais il nous aime par alliance, il nous aime comme un époux aime son épouse, il ne va jamais nous quitter. Donc si on a compris la notion d'alliance, on devrait vivre dans la joie et dans l'assurance. Et puis, si nous avons compris la notion d'alliance, je pense que ça va nous aider, nous, être fidèles dans nos engagements, dans nos mariages. Oui, ce mariage est précieux. Les liens qui nous unissent entre couples sont très importants parce qu'ils reflètent l'amour permanent de Dieu. Et nous voulons rester fidèles aux vœux que nous avons prononcés un jour devant le maire, devant l'Assemblée, devant les témoins. Et puis, au sens plus large, nous sommes appelés à être un peuple qui sont fidèles dans ses engagements, puisque Dieu est fidèle dans les siens. Donc, quand vous vous engagez à quelque chose, nous avons des engagements en tant qu'Église, où nous sommes engagés en tant que membres, et nous voulons rester fidèles à ça. Nous avons des engagements dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, et que le peuple chrétien soit connu comme un peuple qui tient sa parole, qui reste fidèle, comme Dieu l'est envers nous. Prions pour terminer. Seigneur, tu as choisi de te révéler à nous par cette idée des alliances, et nous te remercions pour les plusieurs alliances dans la Bible qui tracent une voie, un même plan qui aboutit à Jésus-Christ, celui qui a tout fait pour nous, qui est le garant de ton amour envers nous. Nous te remercions pour cette image de lui comme époux et nous, de ton peuple, comme son épouse. Ça nous fortifie, ça nous rassure, ça nous aide à rechercher toujours une communion, une relation étroite avec toi. Nous te prions que ces choses sont garanties par l'œuvre de la croix et la résurrection. Rien ne peut rompre cette nouvelle alliance, donc que chacun ici puisse repartir sûr de son salut, sûr de son une relation forte avec toi. Si ce n'est pas le cas, nous te prions de travailler dans les cœurs et de les amener à toi. Par la foi, la repentance, et que chacun puisse découvrir Christ comme époux fidèle. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.